Être roi selon le cœur de Jésus. Je vais commencer par vous dire trois mots de la façon dont, effectivement, à bras ouverts, ma vie a basculé. Je vais essayer de dominer sur le vent. Donc ma vie a basculé quand j'avais 20 ans. Je suis allé à l'âge de 20 ans à Lourdes, conseillé par un frère, une tante, et j'y suis allé presque mollement. Et là, j'ai fait une rencontre qui a fait basculer ma vie, qui l'a transformée, et je l'ai senti sur le moment en plus. J'ai rencontré un petit garçon, porteur d'une infirmité motrice d'origine cérébrale. Il ne parlait qu'avec les yeux, un tout petit battement vertical pour dire oui, un tout petit battement horizontal pour dire non. Et en discutant avec lui, en le rencontrant, en découvrant que derrière le mur de son handicap, il ne pouvait rien faire par lui-même, il y avait un trésor d'humanité, il y avait une humanité absolument intacte. J'ai été émerveillé. J'ai été saisi d'un immense émerveillement. Je ne veux pas faire preuve d'angélisme, je sais que le handicap est une réalité aussi douloureuse. J'en dirai trois mots après. Mais c'est ce qui arrivait dans mon cœur, cette joie immense de voir que je ne ferai jamais de plus grand voyage que de voyage en humanité. Parce qu'en discutant avec Cédric, je découvrais qu'il avait des choses à dire, qu'il ressentait des choses et que rien de ce que j'appellerais aujourd'hui sa dignité n'était enlevé. Et bien au contraire. Et il me révélait aussi, sans doute, ma capacité à le rencontrer, à dépasser ces frontières, ces murs parfois qui sont dressés entre ceux qu'on prétend valides et ceux qu'on dit handicapés. J'ai passé 5 jours extraordinaires et j'avais 20 ans à l'époque. Je regrettais mon enfance joyeuse avec mes cousins. J'attendais le grand amour qui n'était pas là. Et en faisant cette expérience, j'ai goûté à ce présent d'éternité, à la grâce de la présence. Et je me suis dit, voilà, je ne trouverai plus jamais ça. C'est ce que je me suis dit à la fin, au bout de 5 jours. J'avais un cafard adolescent assez typique. Quand on a vécu des grands moments, on est triste et on se dit, voilà. Et là, il y avait un monsieur. C'était pas Daniel Ange, c'était un monsieur non-voyant, avec sa canne blanche. Et dans la salle de transit, il m'entendait parler avec Cédric. Il entendait mes questions, peut-être quelques gloussements parce que Cédric pouvait rire, mais pas de réponse. Et à un moment, le monsieur non-voyant a poussé un grand cri. « Ah, la jeunesse de Lourdes, quelle est belle! Si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle !» Et quand il a poussé ce cri a retenti dans mes entrailles. Immédiatement, je me suis dit « Qui suis-je ? » Jeunesse de Lourdes, j'avais pu, dans l'écrin de Lourdes, faire cette rencontre. Mais en France, qu'est-ce que j'aurais fait ? Voyant un petit garçon porteur de handicap dans sa coquille, tout prostré, le regarder, c'est peut-être indécent, passer son chemin, j'aurais été impuissant à vraiment le rencontrer. Et à l'instant même, de manière un peu volontariste, j'ai décidé d'être jeunesse de Lourdes en France. Et du coup, je suis allé voir Cédric chez ses parents, je me suis inscrit comme volontaire à l'hôpital Raymond Poincaré pour rencontrer d'autres enfants, le mercredi et le samedi, et ma vie s'est transformée comme ça à partir de cette première rencontre. Mais ce que je cherchais, c'est le même tressaillement de joie, et que je retrouvais à chaque fois. Avec toutefois, au fond, je dirais, 2 expériences que là, je vous propose, si je l'ai dit personnellement, c'est parce que je pense qu'elles ont un caractère peut-être universel. La première expérience, et je pense que c'est cela qui nous appelle à être roi, je dirais un peu après les malentendus qu'il pourrait y avoir sur ce mot, c'est l'expérience d'émerveillement. Et Jésus l'a faite, et pas n'importe quand. Il l'a fait, vous connaissez par cœur la formule, elle revient souvent dans les textes de liturgie, des jours ou des dimanches. Jésus tressaillit de joie au fond de son cœur et de ses entrailles, j'ai envie de rajouter, tressaillit de joie et dit « Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits. » Là, il y a une première clé sur notre royauté d'ici-bas. Et cette expérience d'émerveillement, elle est universelle. Chacun d'entre nous, nous la faisons, vous l'avez faite bien sûr un jour ou l'autre. Lorsque celui qui n'était rien aux yeux des hommes vous enseigne des choses de la sacralité, de la beauté, de la profondeur, de la grandeur de la vie humaine. L'homme passe infiniment l'homme, disait le grand Pascal. Et au contact des plus petits, de ceux qu'on peut-être ont méprisés, pour certains ce sera des détenus, pour d'autres ça sera des nomades, s'ils sont sédentaires, ou peut-être l'inverse, s'ils sont nomades, ça va peut-être être quelqu'un de notre famille devenu très fragile, très dépendant, quelqu'un pour lequel on n'a plus de respect, plus de considération. Et un jour, il y a ce jaillissement, cette expérience de la dignité. elle est sacrée, elle est fondamentale et universelle. Elle n'est pas, à proprement parler, chrétienne, elle est anthropologique. Je dis tout de suite qu'il y a une deuxième expérience que j'ai faite plus tard et qui est plus douloureuse, mais je crois tout aussi féconde dans notre vocation royale, c'est celle de l'effondrement. Quand un jour, une autre personne, ou peut-être la même, nous ne sentons plus, nous ne voyons plus la force et la beauté de son humanité. Ça m'est arrivé avec un petit garçon devenu adolescent, Stéphane, avec lequel j'ai passé des centaines de jours. Il était porteur aussi d'une infirmité motrice d'origine cérébrale, mais il était également totalement sourd, sans famille. Sa famille était très fragile, elle l'avait laissé, mais par ils ont sa grande fragilité. Et il est devenu non-voyant, aveugle, progressivement. Et à l'adolescence, il a fait sa crise d'ado, comme la plupart des ados, c'était très dur à gérer. Et un jour que j'essayais de canaliser sa violence, j'ai vraiment senti en moi jaillir cette fois quelque chose d'un rejet profond. Voilà. Et je me suis surpris moi-même de voir le doute que j'avais sur la validité de sa vie. Et cette surprise-là, ça a fait descendre mes convictions de la tête au cœur, au plus profond. Pouvoir faire ce pari de la dignité, du respect de la personne. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tel Job, vous connaissez la formule de Job, alors Job maudit le jour de sa naissance. C'est un cri comme ça de désespoir qui est un cri aussi qui nous enracine dans quelque chose qui dépasse nos émotions. Donc émerveillement, chavirement ou effondrement, deux expériences anthropologiques absolument majeures qu'on peut faire. Après, donc, ça m'a conduit en 1986, quand j'avais 24 ans cette fois, à fonder À Bras Ouverts avec des amis et à partager du temps joyeux et douloureux en même temps. Bonheur et épreuve sont souvent simultanés dans nos vies, en partant en week-end en vacances avec des enfants. Je ne vais pas vous raconter le détail, mais juste vous dire à quel point j'ai senti la présence de la Providence dans ma vocation royale. Je dis, nous sommes tous rois dans l'histoire, hein, donc pardonnez-moi, mais nous sommes rois dans notre sentiment d'indignité aussi. Alors je vais aller tout de suite à une deuxième parole de l'évangile, celle qui me touche le plus, et qui est la toute dernière. Vous la connaissez ? Le dernier verset de tout l'évangile, Saint Jean par conséquent, tout au bout. Vous la connaissez ? Non ? Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et je crois bien que si on les mettait bout à bout par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Si on apprend au pied de la lettre. Moi, j'ai écrit un petit bouquin sur À Bras Ouverts, mais en écrivant, je me dis, mais c'est beaucoup plus grand, profond, mystérieux, cette rencontre avec le monsieur non-voyant, qui a été le fondateur par son cri, qui n'en a rien su, et puis des rencontres providentielles, des deuils surmontés, des bons anges qui sont passés ici ou là, des visages humains qui m'ont éclairé, consolé, rasséréné, corrigé, etc. Toutes nos histoires, même l'histoire de 3 jours passés ici, s'il fallait les raconter dans un livre, vous n'auriez pas assez de 3 jours pour écrire ce livre, même peut-être de 3 ans. Donc c'est l'immensité de cette providence qui évidemment nous met dans une situation tout autre que dans l'espèce de volontarisme vite desséché qui pourrait nous conduire à vouloir tout changer à la façon dont le grand Moïse a pensé faire justice par lui-même au tout début de sa magnifique vocation. Il a tué un Égyptien et après il lui a fallu réfléchir pendant 40 années au désert pour se laisser envoyer. Deux paroles donc qui dessinent, je pense, notre vocation royale. Alors tout de suite, dissiper un malentendu, mais je vois dans vos visages que vous l'avez déjà dissipé, notre royauté, ma royauté, dit Jésus à Pilate, n'est pas de ce monde. Et s'il y a une discussion royale stupéfiante, c'est celle de Jésus avec Pilate, qui dirige la conversation ? C'est le souverain roi attaché et prisonnier qui dirige cette conversation. Quand vous regardez la dialectique échangée entre Pilate et Jésus, on voit bien qui est perdu, qu'est-ce que la vérité, et qui reste souverain. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et Jésus fut un homme debout, reste un homme debout lorsqu'il est prisonnier attaché. Donc ce n'est pas une royauté de ce monde, et quand les disciples discutent en chemin pour savoir qui est le plus grand, Jésus leur rabat légitimement le caquet, celui qui veut se faire le plus grand parmi vous, qu'il se fasse le serviteur de tous. Vous avez entendu la parole reçue tout à l'heure avec ce mot de service qui est vraiment la clé. Hein, la clé. Être roi, pour nous, c'est se mettre au service de notre peuple. Et dans notre peuple, particulièrement, bien sûr, ceux qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus inconsolables, ceux qui sont dans la plus grande peine. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, a besoin de ce service par les autres. Et du coup, l'histoire que nous essayons de conduire dans notre vocation royale, c'est l'histoire secrète de l'amour dans les cœurs. C'est ça la véritable histoire. Ce n'est pas forcément celle que racontent les livres d'histoire qui ont leur valeur, mais c'est l'histoire secrète de l'amour dans les cœurs qui construit l'humanité. Humanité, quel beau mot. Qu'est-ce que ça signifie faire preuve d'humanité, si ce n'est se pencher vers le plus fragile, le plus faible, pour ne pas le condamner, lui pardonner, le relever, le consoler, prendre soin de lui. Alors, à ce stade, je voudrais partager avec vous la boussole de ce que serait notre action pour servir notre peuple. Et cette boussole, elle est donnée notamment dans l'enseignement de l'Église par Popularum Progressio, tout homme et tout l'homme, ou tout l'homme et tous les hommes, comme on veut, tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme, sans amputer l'homme d'aucune de ses dimensions, physique, psychique, intellectuelle, spirituelle, tout l'homme dans notre service, et tous les hommes, sans en exclure aucun, particulièrement ceux qui sont le plus exclus par nos sociétés. Et ça nous demande de faire une réflexion pour conduire notre action, c'est de réfléchir à qui est l'homme. Benoît XVI, dans La charité dans la vérité, nous dit « La question sociale est radicalement devenue anthropologique. » Qui est l'homme, justement, cet homme intégral que nous voulons soutenir et protéger et consoler? Le pape François, dans le même élan, nous dit « Il n'y a pas d'écologie, dans l'audate aussi, il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate, sans savoir qui est l'homme. » Leur prédécesseur, Saint Jean-Paul II, disait que l'éclipse du sens de Dieu et l'éclipse du sens de l'homme sont corrélées. D'où notre quête éperdue de savoir qui est l'homme, qui suis-je, qui sommes-nous, qui est l'homme et qui est la femme, pour pouvoir servir l'homme dans toute sa dignité, dans toute son identité. Le pape François nous aide, je pense, dans sa pastorale. Il est très attaché à ce qu'il appelle les primautés. Vous les avez lues, les primautés, il les a listées à plusieurs reprises, notamment, elles sont citées toutes les quatre dans Laudato Si. Et moi, elles m'aident pas mal dans mon travail et dans notre vocation au service de notre peuple. La primauté de, je vais le dire dans le désordre, j'essaie de le dire dans l'ordre plutôt, la primauté, allons-y, on verra, de la réalité sur l'idée. La réalité sur l'idée, aller plonger dans l'humus, dans la société, dans nos corps, dans nos échanges, plutôt que dans les élucubrations idéologiques qu'on pourrait faire. Revenir toujours au réel, supérieur à l'idée. La deuxième primauté, l'unité est supérieure au conflit. Toujours voir l'humanité commune, les élans positifs. On a eu un exemple dans l'enseignement d'hier matin. Voilà, avant d'assumer les conflits, les différences, de s'accorder sur nos désaccords, allons voir déjà ce qui peut nous réunir. La troisième primauté, le temps est supérieur à l'espace. Et c'est très consolateur pour chacun d'entre nous qui parfois voudrait tout faire et au risque d'avoir une frénésie activiste qui le décourage. Le temps est supérieur à l'espace. L'espace, si on cherche à occuper tout l'espace, dit le pape François, on devient fou et on s'entretue pour occuper l'espace. Par contre, l'essentiel est d'inaugurer un processus, on pourrait dire un exode, inaugurer des processus, je dirais de libération, de consolation. Et on sème avec les deux orthographes possibles, et puis la récolte ensuite se fera. Peu importe si ce n'est pas nous qui récoltons ce que nous avons semé. Et puis il utilise aussi la primauté, la quatrième, l'unité est supérieure au... le tout est supérieur à la partie. Le tout est supérieur à la partie. Je suis, il nous décrit l'humanité, non pas comme une sphère avec des points équidistants, mais comme un polyèdre, chacun d'entre nous étant, au fond on peut le dire, une icône irremplaçable et unique du visage du Christ lui-même, y compris des adversaires ou ceux qu'on croit être nos ennemis, qui révèlent quelque chose aussi de la beauté de l'homme et de sa dignité. Et par conséquent, la totalité de l'humanité, de cette famille humaine, la totalité de nos... De cette humanité est plus importante à avoir que notre petit nombril personnel. Toujours élargir l'espace de notre regard à la totalité, sans en exclure aucun. Bon, je sens que vous suivez. Je m'accroche à vos regards. Face à l'état du monde, nous pourrions, et nous le faisons, je le fais, et vous aussi, je pense, parfois, nous enfoncer un peu dans la constatation, le commentaire, la déploration. Et ce n'est pas notre vocation royale. La vocation royale nous appelle à agir, à dépasser cette énergie perdue dans le commentaire négatif et passif de la situation de notre monde. L'action, on peut tous en témoigner, est profondément consolatrice. Faire ce qu'on a à faire et après se coucher tranquillement parce que le maître veille. Et ce n'est pas le serviteur qui s'inquiète la nuit de ce que fait le maître. Voilà, agir. Et comment agir? Alors là, je vous ai proposé des mots en S pour essayer de vous aider à suivre mon plan. Agir, il y aura le mot service, le mot souveraineté d'abord, et après quelques autres mots en S pour commenter. Le service, c'est bien sûr cela notre vocation royale. Et le service, il vient, je pense, à la façon dont Benoît XVI nous parle dans Dieu est amour, du programme du bon samaritain. Un cœur qui voit. Un cœur qui voit. Notre cœur qui voit. Et heureusement, je ne vois pas tout, et ni vous. Chacun d'entre nous voit de la misère de notre peuple quelque chose qui l'appelle. Moi, je n'ai jamais vu personne mourir de faim. Je sais que le cardinal Barbarin en a déjà vu, et je sais que ça l'a beaucoup touché aux entrailles, hein, et moi, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, j'ai vu d'autres réalités douloureuses, des personnes âgées abandonnées dans des longs séjours à l'époque, et mon cœur a été saisi en disant « Mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là dans notre société, etc. » Et donc, j'ai été appelé là où mon cœur voit. J'ai vu la misère de mon peuple. Nous avons tous un buisson ardent qui nous appelle et qui rejoint notre regard, parce que la misère de son peuple, Moïse l'avait vu aussi. Le Seigneur, vous savez, au buisson ardent, lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri devant son oppresseur. Va !» Et donc je pense que nous sommes tous dans cette dimension triple du buisson ardent de Moïse. J'ai vu la misère, va voir Pharaon, et le signe que tu me donneras, tu me célébreras, prêtre, prophète et roi. Et il est très important par conséquent de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas embrasser la totalité d'une stratégie supposée, mais simplement d'aller là où son cœur nous appelle, de fleurir au fond là où on est planté. Ou rempoter, certains sont rempotés à Paris, d'autres sont rempotés à un autre endroit, et petit à petit, leurs racines les font fleurir là où ils ont été envoyés, où ils se sont laissés envoyer. On ne s'envoie pas tout seul. Moïse en est le signe. Lorsqu'il s'est envoyé tout seul, il a été très vite violent et desséché. Il s'est laissé envoyer sur le lieu où son cœur avait vu. Mère Teresa de Calcutta a 39 ans, a sa vocation dans la vocation, elle entend une parole du Seigneur dans son train à Dar qui le conduit, vous le savez, et cette parole, hein, « Va, sois ma lanterne, va dans les taudis des pauvres, ils ne me connaissent pas, etc. » Arrache-les à cette grande misère morale et matérielle. Et donc, voilà, chacun d'entre nous est un jour ou l'autre appelé, ça ne leur est pas réservé. J'ai regardé, pour approfondir un peu ici, parce que c'était l'occasion, hein, « Je t'ai choisi » comme un abîme d'indignité, a révélé dans son autobiographie celle qui a découvert, qui a eu cette révélation du Sacré-Cœur de Jésus. Et Moïse lui-même, dans son buisson ardent, vous le savez, dit « Je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier ni d'avant-hier, Seigneur. Quand tu m'envoies, ma bouche est pâteuse quand tu me parles. Qui t'a donné une bouche ?» Donc, voilà. L'indignité est un très bon critère pour se laisser envoyer. Et attention à ne pas croire qu'on n'a pas les talents de ce à quoi on est appelé. C'est une tentation de découragement qui ne vient pas du cœur sacré du Seigneur. L'indignité est un joli critère. Voilà. Après, on donne l'exemple du service avec ce samaritain, ce bon samaritain, qui est un service intelligent, organisé, qui ne fait pas tout seul. Vous connaissez l'histoire, hein. Il le ramasse, bien sûr, il le voit déjà, mais il le ramasse, il lui panse les plaies avec ce qu'il faut, pour pas qu'il y ait d'infection, ce qu'il faut à l'époque. Il le transporte sur sa monture, il le confie à quelqu'un, il donne un peu d'argent, il reviendra. Voilà, toute l'intelligence collective d'un cœur qui n'est pas le sauveur à lui tout seul, mais qui s'appuie sur la communauté des hommes pour accompagner. Alors, le pape François a insisté l'an dernier, vous avez certainement lu sa bulle d'addiction sur la miséricorde, les œuvres de miséricorde. Et bien sûr, ce service de notre peuple, notre vocation royale, elle s'accomplit par ces œuvres de miséricorde. Je vais peut-être vous les relister parce que c'est parfois nécessaire et puis en faire un petit commentaire. Il y a, vous savez, les œuvres de miséricorde corporelles, bien connues grâce à saint Matthieu. 7. Donner à manger aux affamés. Donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les pauvres, ensevelir les morts. Pour ensevelir les morts, il y a aussi je ne sais pas si j'en parle maintenant, non, tout à l'heure. Insistons sur la soif, parce que toutes ces œuvres de miséricorde, qu'elles soient d'ailleurs corporelles ou spirituelles, c'est ce que je listerai d'ailleurs, répondent à une soif de l'homme, une profonde soif. Hein. Quand j'étais jeune, on me disait on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et j'ai envie de dire si, nous vivons d'abord d'amour et d'eau fraîche. Voilà ce qui est vital pour l'être humain, d'amour et d'eau fraîche. Et c'est une des choses que j'ai découvertes à bras ouverts et pour lesquelles je rends grâce au Seigneur, c'est de m'avoir donné l'occasion de donner à boire à ceux qui ont soif. J'étais un jour dans un lit, il y avait dans cette chambre deux accompagnateurs et deux jeunes, parce qu'à bras ouverts, il y a toujours des binômes. Il y avait un nouvel accompagnateur dans l'autre lit et puis deux jeunes dans deux autres lits. Et j'entends un petit garçon qui ne pouvait pas bouger par lui-même, pas se servir lui-même, au milieu de la nuit dire « J'ai à boire, à boire ». Mais ce n'était pas mon binôme. Et en tant que responsable, il fallait quand même que je laisse l'autre binôme agir. Et le gars, il s'est retourné dans son lit et je l'ai entendu dire « Ah non, 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 le jour, d'accord, mais pas la nuit. » Et j'ai ri dans ma barbe que je n'avais pas. Je me suis dit « Tu vas y aller, mon gars. » Parce qu'effectivement, le petit garçon a insisté. 3-4 fois, il a réveillé. L'autre, bien sûr, a été saisi d'obligation ou de compassion. Il lui a très gentiment donné à boire. C'est vraiment merveilleux d'avoir la joie de pouvoir donner à boire à ceux qui ont soif. Ce que fait une jeune maman, bien sûr, tout de suite, et le papa s'en occupe et s'en mêle. Ce que j'ai fait encore l'autre jour, j'ai une tante bénédictine qui est hospitalisée actuellement et elle avait, vous savez, souvent dans les opérations en réa, on a la bouche sèche, etc., on ne sent pas bien du tout. Et vraiment, est-ce que nous avons cette occasion de donner à boire? Et pour ça, il faut des corps. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous visiter sur nos lits de souffrance, d'incontinence, de désorientation ou de mort. Ce sont des corps bien vivants qui vont nous donner à boire. Voilà. Et autant des technologies super sophistiquées, on a encore besoin de mains et de bras et de cœur pour donner à boire à ceux qui ont soif, pour vêtir ceux qui sont nus. Voilà, ça m'est arrivé d'arriver dans un hôpital et vous rencontrez un prêtre, il était tout nu. J'ai recouvert tout de suite d'un petit geste. Et en me disant, mais voilà, c'est vraiment recouvrir la nudité du Père qui était là, voilà, pour qu'on puisse ensuite converser tranquillement. C'est une grande chance de pouvoir le faire, toutes ces œuvres de miséricorde corporelle. Et l'une d'entre vous, qui venait de la Martinique, me disait la tristesse qu'elle avait de voir en France combien les rites funéraires étaient escamotés. On ne fait pas ces 9 jours de veille et de prière après l'inhumation qu'ils font là-bas pour se consoler devant des bougies, parler avec les enfants du défunt, de la mort. Voilà. On peut s'interroger si nous n'avons pas encore un énorme effort à faire pour autour de nous, par capillarité, instaurer ces œuvres de miséricorde. Mais j'en ai déjà dit un peu trop sur les spirituels. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles, dit le pape François. Conseillez ceux qui sont dans le doute. Enseignez les ignorants. Avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà tout un programme de transformation de la société qui, si nous l'appliquons autour de nous, et vous le faites déjà, et les chrétiens le font depuis bien longtemps et continuent de le faire dans une magnifique créativité, eh bien nous pouvons adoucir un peu des peines du monde et de nos propres peines. Je me demande si le pape François ne rajoute pas une autre œuvre de miséricorde avec Laudato Si, même s'il est dans l'élan de ses prédécesseurs, c'est prendre soin de la création. Voilà, qui l'assimile d'ailleurs à prendre soin des pauvres d'aujourd'hui, qui subissent notre surconsommation et notre surpollution, et puis aussi prendre soin des générations futures qui ont droit, comme nous, à une terre habitable, un air respirable et une planète dans lesquels ils pourront s'épanouir. Donc il y a une double peut-être dimension désormais, une dimension plus grande, plus l'humanité a acquis de puissance et plus sans doute la miséricorde qu'elle exprime doit être fine, ajustée et à la hauteur des enjeux. La miséricorde, le cœur qui se penche sur la misère. Je pense que dans une société souffrante, qui est dans l'errance souvent par rapport à l'identité même de l'homme, la miséricorde est le principe actif de la vérité. Maurice Zindel parler dans Notre-Dame de la Sagesse, c'est un très beau petit livre où il exprime à quel point seul un éclair de bonté peut restaurer une personne dans l'image de sa nativité. Vraiment une bonté, une bienveillance, on a évoqué ça hier au début de l'enseignement, donc je le reprends. Mais il y a quelque chose d'essentiel à considérer que la vérité tranchante comme un glaive sans la miséricorde, sans être sur cette ligne de crête où amour et vérité se rencontrent, elle peut tuer. Et donc, vous avez entendu la façon dont le Christ parle à la Samaritaine, de manière assez forte. Hein, « Va chercher ton mari, je n'en ai pas, tu dis vrai, tu en as eu cinq, celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari, je le fais vite. » Comment se fait-il qu'elle soit toute joyeuse? Voilà un homme qui a dit ce que j'avais fait. C'est que ce que je crie, ce que je suis, pardon, crie plus fort que ce que je dis. Et donc, le cœur de miséricorde, brûlant d'amour, s'est exprimé dans le ton de la voix, le visage, les ondes corporelles, toute la dimension humaine incarnée, mais d'amour incarné, qui a consolé en profondeur cette femme de tout ce qu'elle vivait. Ce n'est donc pas une vérité qui tranche sans que l'amour forme, la miséricorde forme que prend l'amour au contact de la souffrance soit présente. Et du coup, ça nous donne ce programme, ce programme. J'aimais bien la phrase de Monseigneur Lustiger. Je le dis en substance parce que si quelqu'un retrouve la citation, ça m'arrangerait, j'ai peur de la déformer. Mais il disait en substance... vous les chrétiens, quand vous riez, vous ne riez pas, car j'ai mis en vous toute la souffrance du monde. Quand vous ne pleurez pas, car vibre en vous l'espérance éternelle. Voilà cette joyeuse allégresse du chrétien qui est comme un programme, une façon d'être dans un monde où des réjouissances... au fond, des tristes réjouissances parfois abîment l'homme et où d'autres sont dans des désespérances absolues. On a donc au fond ce programme. Il paraît que 4 millions, les amis, de nos concitoyens n'ont pas 3 conversations suivies par an. 4 millions de nos concitoyens n'ont pas l'occasion de converser avec quelqu'un de manière un petit peu profonde 3 fois par an. Vous imaginez l'océan de solitude qui nécessite cette écoute, ce cœur qui écoute, pour consoler, éclairer, faire confiance aussi dans la loi naturelle qui est inscrite au plus profond du cœur de l'homme, cette loi qui l'attire, quelles que soient ses croyances, vers le bien, le bon et le vrai. Et donc nous avons besoin, c'est Maurice Zindel qui en parle sous cette forme, d'agenouiller nos âmes devant l'âme des personnes que nous écoutons. Une âme qui s'agenouille devant l'humanité de la personne pour qu'elle puisse se déployer selon son appel intérieur. Voilà pour le service. Je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire là-dessus. En insistant sur l'importance, oui, du corps. Ensuite, deuxième mot, la souveraineté. Nous sommes debout, on essaye de se tenir debout, souverain. Qu'est-ce que c'est que cette souveraineté? Ce n'est pas la souveraineté et la gloire par trop humaine. C'est d'avoir conscience, au fond, que nous ne cessons d'avoir besoin de libération face à nos aliénations. Je ne sais pas si vous avez lu dans Laudato Si la façon dont le pape François nous parle de nos aliénations. Hein. Mais d'autres en parlent très bien. J'ai bien aimé le texte du philosophe de Google qui s'appelle Tristan Harris et qui parle du téléphone. Cette petite chose qui, dit-il, je le cite, rentre sans cesse en compétition avec le réel et gagne toujours. Toutes ces notifications, informations, frénésie d'échanges, etc., qui finissent par nous détourner de notre liberté intérieure. Et donc la souveraineté qui est la nôtre, c'est d'abord la souveraineté du fort intérieur, de cet espace de nos cœurs, j'ai envie de dire aussi de nos entrailles. Dans le cœur sacré, je vois tout l'être, l'intelligence, la vitalité, l'amour, les émotions, tout cela, et habiter notre demeure intérieure. Fort et foer, mais j'y mettrais bien un T parce qu'il est à défendre, pour pouvoir habiter cet espace où siège notre liberté, notre unicité, où siège la vie intérieure qui est le lieu de l'appel du Seigneur. J'ai entendu un prêtre qui disait « Il n'y aura jamais de vie spirituelle s'il n'y a pas d'abord une vie intérieure. » Ce silence, un autre S, qui est le lieu aussi de notre souveraineté. Dans ce fort intérieur, on va pouvoir réfléchir justement à ces aliénations, à tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Est-ce que ce sont des modes, quelles qu'elles soient? Est-ce que c'est une pensée peut-être unique? Est-ce que c'est des idées toutes faites? Parfois, c'est un surmoi parental, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire comme ça, comme on a toujours fait dans ma famille, et je ne suis pas donc libre de répondre à ma vocation. Je suppose que Saint François d'Assise, quand il part tout nu en laissant les draps dans les bras de son père, se désaliène du surmoi parental qui lui demandait d'être drapier. C'est un très beau métier, mais ce n'est pas ça qui lui était demandé. Et on peut aussi, comme l'a fait courageusement le prophète Daniel, se débarrasser dans notre fort intérieur de la pression de notre caste, quelle qu'elle soit. Ces grands magistrats libidineux qui voulaient faire assassiner celle qui n'était pas parvenue à violer, vous connaissez l'histoire, qui a été rappelée hier. Eh bien voilà un tout jeune qui sera magistrat à son tour, hein, qui ose l'ouvrir quand tout le monde la ferme. Et ça, seul le fort intérieur peut nous donner le courage d'ouvrir la bouche quand nous parlerons peut-être à contre-temps. Je parle de notre caste, hein. C'est-à-dire parfois c'est les gens qui font les mêmes études, les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. C'est très difficile, hein, d'être méprisé dans sa caste. Et donc ça nous exige de regarder, c'est quoi ma caste? Est-ce que j'ai une parole libre? Est-ce que dans ma famille où tout le monde critique une personne, je suis capable d'en dire du bien? Une personne de la famille qu'on aime bien, une belle-sœur, une belle-mère, un cousin, celui qui est un peu le bouc émissaire de la famille, car les sociétés humaines génèrent des boucs émissaires, comme s'ils étaient source de tout le mal. Est-ce que je peux mettre la vie là où il y a un esprit de fatalité? Moi, j'ai tantôt, je dis ça aux enfants, j'ai essayé de dire du bien de quelqu'un dont on dit toujours du mal, vous allez voir. Et on casse comme ça le cercle qui tend à rejeter, à exclure. Donc c'est assez intéressant de voir au fond de notre fond intérieur quels sont nos propres boucs émissaires, quelles sont ces personnes auxquelles peut-être nous n'accordons pas la bienveillance, la considération, à commencer par ceux qu'on croit ou qu'on considère comme nos ennemis. Important de recevoir dans ce fort intérieur cette liberté. Notre liberté bien sûr aussi de penser. Il y a deux phrases qui m'ont beaucoup touché dans Laudato Si, je voudrais vous en lire une première, et elle répond, je pense, au thème du jour. Le pape nous dit, quel est l'objectif? Quel est l'objectif du panorama très douloureux qu'il fait de la défiguration que nous causons à la fois aux sociétés humaines, à la création, dont nous sommes la plus belle fleur de la biodiversité, nous-mêmes, mais aussi aux espèces animales, végétales, aux paysages, et voilà. Comment est-ce qu'il veut nous accrocher? L'objectif de toute cette encyclique n'est pas de récolter, je n'arrive pas à bien me relire, mais c'est quelque chose, des informations, ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser, courage, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Il s'intéresse beaucoup à nos motivations. Et quand on discute avec quelqu'un, c'est important de savoir qu'est-ce qui anime cette personne, plutôt que de projeter mes désirs sur elle. Donc il nous dit, voilà, c'est pas la curiosité, c'est en quoi je peux transformer ça en douleur personnelle pour me mettre en marche, pour avancer d'un pas royal et agir là où je suis, autour de moi. Et il dit, par exemple, un petit exemple moi, qui m'a beaucoup touché, quand il dit, le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu'on est animé par de profondes motivations, peut-être un acte d'amour exprimant notre dignité. Vous voyez, cette toute petite chose que je fais, cet acte de résistance que je fais face au consumérisme, je réutilise plutôt que jeter, ma motivation est profonde, elle est eschatologique, elle s'inscrit dans le plan du salut, et donc avec ferveur, je ne parle pas de moi parce que ce n'est pas forcément ce que je fais, mais voilà, avec ferveur, je réutilise et j'exprime ma dignité. C'est beau, non, de se dire qu'une toute petite chose peut transformer par conséquent mon regard sur le monde, ma place et valider ma pleine dignité. Deuxième petit mot d'accompagnement de la souveraineté, après le mot sagesse, après le mot silence, le mot sagesse. J'évoquerai Salomon, le roi Salomon, qui est un modèle bien sûr de roi pour nous dans son commencement. Il a demandé un cœur qui écoute. Il a demandé l'humilité, il l'a obtenue, et voilà qu'il se comporte en roi. Ces deux femmes qui se disputent un enfant, vous connaissez le jugement de Salomon, on dit souvent couper la poire en deux, pas du tout. Il provoque la vérité, et la vérité sort de la bouche de la femme qui est mère. Je préfère qu'il vive, donnez-lui l'enfant. Et le magistrat, le roi, exerce sa magistrature suprême. C'est elle la mère, rendez-lui l'enfant. Et il y a quelque chose de très important à ce qu'un cœur humble soit en nous, un cœur qui écoute, pour pouvoir véritablement voir les enjeux et exercer ensuite, s'il le faut, le pouvoir, quand on l'a, là où on est. Nous sommes tous des responsables politiques, au sens où nous sommes tous capables à établir la justice autour de nous, d'une manière forte, dans nos familles, dans nos lieux de vie, nos villages, peut-être nos paroisses, partout. Nous sommes appelés à établir la justice plutôt que de nous plaindre de telle ou telle injustice lointaine. Jean-Paul II a sagesse encore. Jean-Paul II au Bourget, j'y étais parce que je commence à être vieux, lorsqu'il est venu pour la première fois en France, a dit cette phrase qui est moins connue peut-être qu'une autre: France, éducatrice des peuples. Il l'a dit, hein, le pape polonais. Qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? Voilà, il y a une question de sagesse, de réflexion, pour voir la façon dont nous pouvons agir avec force au service de la justice. Sobriété, je l'ai déjà évoqué, face à la frénésie consumériste, pour essayer de repérer la façon dont nous pouvons agir dans ce monde sans forcément épouser la frénésie du monde qui nous fait tant de mal. Et je vous renvoie encore sur Laudato si. Et le pape a des très belles paroles pour nous dire à quel point une certaine forme de sobriété, j'ai à prendre de la graine personnellement, mais peut nous rendre heureux, enlever ce trop qui nous étouffe tellement. Et puis, après la souveraineté, je voudrais rappeler que ce sacerdoce royal, il est sacré. Il y a quelque chose d'une sacralité. Le roi Akaz, vous connaissez dans la Bible, qui refuse de demander un signe, eh bien, à l'inverse, peut-être que nous pouvons cheminer dans nos vies, dans nos chemins de transformation de la société, en accueillant et voyant tous les signes qui nous sont donnés. Un grand travail pour, avec humilité et discernement, voir tous ces signes. Je rappelle ce verset, hein, mais qui, à mon avis, est à prendre au pied de la lettre, hein, toutes ces choses que Jésus fait. Encore parmi nous, il en fait de plus grandes que durant son incarnation nous a-t-il promis, et qui fait que nous sommes avec des forces qui nous dépassent, qui remplissent toutes nos faiblesses. La sacralité de notre sacerdoce royal, c'est la nôtre. Nous sommes des êtres humains, et le temps est à défendre l'homme dans sa dignité éminente face au fantasme que la dignité pourrait être à un animal ou à un robot. Les 25 fois que le pape François évoque la dignité dans Laudato si, il parle de la dignité humaine. Et c'est cette dignité humaine qui nous interdit d'exercer une cruauté gratuite vis-à-vis des animaux. Ceux qui en doutent, regardez tout ce qui est dit sur ce sujet, mais c'est très important de revoir, c'est nous qui sommes souverains, entre guillemets, pour pouvoir agir dans cette création et réguler notre puissance et respecter en profondeur autant qu'on le peut cette création, mais sans accorder cette royauté aux animaux, quels qu'ils soient, et bien sûr pas non plus aux robots dont certains imaginent qu'ils pourraient avoir la conscience, le pouvoir et d'être des surhommes comme si nous n'étions pas nous-mêmes assez grands comme ça. Je dirais aussi que évidemment, pour se nourrir sur ce chemin royal de service, les sacrements sont la nourriture par excellence. Et moi, je bénéficie de celui du mariage, par exemple, qui est une chance inouïe de pouvoir être envoyé par le sacrement de mariage en mission pour pouvoir assumer mon indignité, ma petitesse, me laisser consoler, me laisser éclairer, corriger dans ce sacrement de mariage. Mais c'est vrai, les consacrés ont d'autres supports, et nous avons tous ce sacrement de baptême qui ne cesse de nous envoyer. Ça nous donne une nourriture pour la route. Voilà, et de ce fait, il y a quelque chose toujours de sacré dans les rencontres que nous faisons qui peuvent nous renvoyer dans le bon sens. Je pense aux pèlerins d'Emmaüs qui sont rejoints par le Seigneur et qui sont renvoyés par l'Eucharistie pour marcher cette fois dans le bon sens, non plus dans le sens de la mort, mais dans le sens de la vie, avec toute leur propre force. Ils ont été nourris de la conversation et de l'Eucharistie. Alors pour conclure, quelques petits points rapides, je suis dans les temps à peu près. Je pense que ce que dessine aujourd'hui notre capacité de consolation et de service, ce sont des oasis de vie dans la vérité. Construire des lieux où nous essayons, malgré notre profonde indignité, de vivre dans la vérité. Ces oasis, elles sont de toutes sortes, je ne vais pas les lister, mais elles doivent se relier entre elles, ce ne sont pas des ghettos. Et puis elles doivent sans cesse rentrer en dialogue avec le monde pour pouvoir apporter cette vie, apporter cette vérité au monde qui en a besoin. Et je pense qu'ainsi se tisse une société de bienveillance. Continue de se tisser une société où beaucoup d'hommes sont créatifs dans l'ordre du bien, du beau et du vrai, et où les chrétiens n'ont aucune honte à avoir, dans la mesure où il y a encore un foisonnement d'initiatives extraordinaires qui répond à la soif de miséricorde de notre monde. Et je crois, par ailleurs, que ces oasis de vie dans la vérité, elles sont comme un écho d'un oui, du oui de la Vierge Marie, un écho d'un oui cosmique qui n'en finit pas de résonner dans nos vies par nos petits oui, qui sont faits aussi d'un certain nombre de noms, dont le haut, je mets un cœur à la place du haut, parce que c'est des noms, des renoncements, des sacrifices, peut-être par amour, mais c'est tous ces oui qui vont nous permettre, dans nos engagements, selon nos appels, de faire rayonner ce royaume de miséricorde que nous sommes appelés à construire. Et je terminerai par la tenue qui nous est proposée dans l'Épître aux Éphésiens par saint Paul. Vous connaissez bien sûr au chapitre 6, versets 14 et suivants. « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Et enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Il continue en disant « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. » Moi, j'essaie de me faire un petit schéma, un petit dessin pour dessiner cette armure-là. Vous l'avez fait peut-être pour s'en souvenir, parce qu'on voilà, le zèle a annoncé l'évangile de la paix. Et voilà, cette dynamique paisible, cette royauté paisible, humble, qui est à l'inverse des valeurs de la vaine gloire humaine. Mais voilà ce que vous faites tous, que j'essaie de faire aussi, chacun dans nos domaines. Et j'étais content d'entendre tel ou tel parmi vous partager son propre prophétisme à sa hauteur, à hauteur d'homme. Et c'est ça qui transforme le monde. Je vous remercie. Merci Seigneur.